Kiosque Magazine.
Jeudi 19 février, et je vous le dis tout de suite, non, le printemps n'est toujours pas arrivé aux dernières nouvelles. Si quelqu'un pouvait lui faire passer un même mot à l'effet que ça achève. Ah oui, 19 mars, c'est vrai. Regardez, c'est parce que c'est une illusion climatique. Voilà, je reviens dehors et il fait froid, voilà. Alors, 19 mars, quelle horreur.
Bon.
À mes côtés, Éric de Belval. Éric, bonjour.
Bonjour, François.
À la mise en onde de Rémi Hermoso. Rémi, bonjour. À Rémi qui ne répond pas, évidemment. Rémi ne répond jamais. Rémi tourne un bouton quand il veut nous faire savoir quelque chose. C'est assez épouvantable. De quoi parlons-nous aujourd'hui?
Eh bien, vous savez, François, qu'un des grands thèmes de réflexion actuelle en économie, c'est l'accroissement des richesses du plus petit nombre et l'augmentation de la pauvreté pour les plus nombreux. On en a parlé souvent et on continuera de le faire. Alors, ce phénomène, il est à l'échelle de la planète dans des proportions qui sont insupportables, et pas seulement sur le plan économique, mais bien sûr aussi sur le plan éthique. Eh bien, dans cette ligne de pensée, il y a une autre interrogation. Quel lien doit-on faire entre dette, austérité et inégalité sociale, et plus particulièrement au Québec? Alors ensuite, on va s'intéresser à l'investissement socialement responsable. De quoi s'agit-il? C'est une forme de placement consistant à prendre systématiquement en compte des critères liés à l'environnement, au social et à la gouvernance. On appelle ça les critères ESG. En plus, bien sûr, des critères financiers. Alors, c'est une tradition anglo-saxonne qui trouve ses racines dès le XVIIIe siècle, notamment avec le mouvement religieux philanthropique Quaker. Moi, je me souviens, je mangeais des Quaker Oats quand j'étais gamin.
Oui, on parle ici de gruau Quaker.
Oui, d'accord, voilà. Bon, très bien. Donc, à l'origine, il s'agissait de s'engager contre l'esclavage, contre l'activité corsaire et contre tout acte de violence. Hein, c'est étonnant, et c'était les communautés religieuses, au temps où elles faisaient des choses utiles, qui interdisaient à leurs membres d'investir dans des sociétés d'armes, d'alcool ou de tabac. Passez le message à Monsieur Harper. Bien, et puis on finira avec l'énergie Est. Figurez-vous que selon Naomi Klein, la célèbre militante écologiste, eh bien dire oui est immoral. Dire oui à quoi et à qui? Eh bien, elle n'a pas hésité à qualifier Philippe Couillard de complice du pire crime qui soit contre la planète suite à sa décision de soutenir le projet de pipeline de TransCanada. Après tout, qualifier de crime contre l'humanité des décisions qui causeront des drames humains à terme est aussi justifié que de s'opposer à des crimes qui provoquent des morts immédiates tout aussi définitives. Voilà pour ce qui me concerne.
Et de mon côté, José Boileau est ma vedette cette semaine puisque deux de ses textes ont retenu mon attention. Dans le second, on parle d'un manque de distance puisqu'il faut savoir que la mine Arnon à cette île a reçu le feu vert pour débuter ses opérations. Tout ça dans un... En fait, c'est pas clair. Il y a plein de choses qui sont pas transparentes ou en tout cas pas assez claires. Et José Boileau revient sur le processus et sur les obligations de l'État dans ce genre de cas. Elle nous parle aussi des inégalités fiscales, puisque je vais prendre le contre-pied de votre premier sujet. Mais à la fin de cette émission, restez là, puisque je vous parle de l'Irlande. C'était la Saint-Patrick cette semaine, et on ne peut pas ne pas parler des Irlandais. Ça les ferait fâcher. Ah, on l'a vu la semaine dernière et dernier. D'ailleurs, on en parlait, il y a 8 fondations très importantes à Montréal qui ont fait une sortie pour demander au gouvernement, mais ciel, où s'en va-t-on? Est-ce que c'est de l'austérité? Est-ce qu'on est en train de couper les ressources les plus productives, celles qui finalement servent les plus pauvres et le milieu philanthropique d'une manière générale? On peut se poser plein de questions sur l'évolution des finances publiques, et c'est ce que Francis Veil a fait également dans la presse.
Mais oui, mais... Vous savez, on le dira jamais assez, et je le disais à l'instant, la question de l'inégalité est une aberration non seulement sur le plan moral, mais bien plus encore sur le plan économique. Si je suis riche, mon intérêt, il est bien plus grand à favoriser l'enrichissement des plus pauvres que le mien. Et plutôt qu'à accaparer les richesses et priver ainsi les plus pauvres de participer à leur propre développement. Hein, c'est un principe qui pourrait quand même être un peu mieux suivi. Parce que dans le premier cas, la machine tourne, elle enrichit tout le monde. Dans le second cas, elle se grippe et elle appauvrit tout le monde. Et à terme, même les riches. En tout cas, Francis Veil a réfléchi effectivement sur les liens qui existent entre la dette, l'austérité et les inégalités sociales dans un article de la presse que je vous lis. Est-ce l'austérité qui est responsable de l'affaissement de nos mesures sociales, ou est-ce plutôt notre endettement public excessif? La question se pose à la lecture du texte collectif de fondations privées publié dans Le Devoir hier, qui met en garde le gouvernement Couillard contre les effets de ces compressions sur les inégalités sociales. D'emblée, je partage entièrement le constat et l'objectif du collectif de fondations privées, dont fait partie la fondation Lucie et André Chagnon, né de la vente de Vidéotron à Québecor en 2000. Le Québec est la société la plus égalitaire en Amérique du Nord. Cette situation enviable est le résultat de choix collectifs et constitue un actif notable sur les plans économiques et social. Les inégalités nuisent à l'économie, à la société et à la démocratie. Donc c'était une citation. Écrivent les dirigeants des 9 fondations qui exhortent les Québécois à poursuivre la lutte contre les inégalités. Je partage cet idéal et pour ma part, je ne connais pas un homme d'affaires sérieux, pas un économiste, pas un politicien dont l'objectif ultime est d'appauvrir les pauvres et de faire payer la classe moyenne. On pourrait discuter.
C'est jamais comme ça qu'on le présente.
On pourrait discuter. Le débat ne porte pas sur cet idéal, mais sur la façon d'y parvenir. Et ça, ça relativise déjà beaucoup. Ou du moins, sur la façon de ne pas s'enliser davantage, ce qui relativise encore davantage. Certains jugent encore que nos finances publiques ne sont pas en si mauvais état et que les compressions ne sont pas nécessaires. D'autres estiment plutôt qu'il faut mettre plus de temps à revenir à l'équilibre budgétaire, question de ne pas nuire à l'économie. Enfin, il y a ceux qui jugent qu'après 6 déficits d'affilée, il faut rapidement revenir à l'équilibre avant qu'une éventuelle récession, phénomène cyclique, ne revienne nous frapper. Quoi qu'il en soit, le Québec n'est pas un modèle de boom économique depuis des années. La productivité de nos entreprises est nettement moindre qu'ailleurs et notre dette publique gonfle beaucoup trop vite, sans compter que notre population vieillissante coûte cher en soins de santé. Tenez, prenez l'étude de HEC Montréal sur la dette parue hier. Les auteurs rappellent que la dette nette du Québec est la plus élevée des provinces canadiennes et de loin. Elle représente environ 50% de notre économie, c'est-à-dire du produit intérieur brut. Comparativement à 38% en Ontario, 36% au Nouveau-Brunswick et 17% en Colombie-Britannique. En soi, ce n'est pas la dette qui est le principal problème, mais les frais d'intérêt, appelés le service de la dette. En 2014, ces frais s'élevaient à 10,6 milliards de dollars, soit 11,4% du budget du gouvernement du Québec. Et 10,6 milliards, c'est davantage que les dépenses des ministères des Affaires municipales, de l'agriculture, de la culture, de l'environnement, de la famille, des forêts, de l'immigration, de la justice, de la sécurité publique, du tourisme et des transports, pas pris séparément, mais réunis. De plus, 11,4% du budget, c'est également davantage que ce que les autres provinces et le fédéral consacrent à leur propre service de la dette. En Ontario, c'est 9,1%. Au Nouveau-Brunswick, 8,5%. En Colombie-Britannique, 5,7%. Terre-Neuve arrive ex aequo avec le Québec. L'étude de HEC Montréal refait également la comparaison de notre endettement relatif avec celui des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, qu'on appelle l'OCDE. Pour pouvoir comparer avec la même méthodologie, les auteurs ont ajouté la dette des municipalités et amalgamé la part de la dette fédérale qui reviendrait au Québec en proportion de sa population. Ainsi, le Québec arrive au 10e rang des 31 pays de l'OCDE les plus endettés à 105% de son PIB. La position peut sembler correcte, mais il faut savoir que 5 des pays qui devancent le Québec vivent des situations économiques atroces, notamment la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal.
Oui, mais il y a beaucoup de démagogie là-dedans. On ne parle pas de la même échelle en ce qui concerne la Grèce, l'Italie, le Portugal. Ils sont avant nous, oui, mais de beaucoup quand même.
C'est tout à fait clair. La Grèce, je crois que c'est 170%. Et puis le contexte économique, vous le rappeliez, n'est pas du tout le même. Certains observateurs attribuent... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'au Québec, on arrive à collecter les impôts, on a un cadastre, il n'y a pas une évasion fiscale majeure, il n'y a pas 50% des armateurs qui ont fichu le camp, etc., etc. Certains observateurs attribuent les problèmes de ces pays aux mesures d'austérité exigées par les financiers. Ces mesures, il faut le reconnaître, ont parfois accentué leurs problèmes. Néanmoins, leur déchéance s'explique plutôt par leur refus d'affronter leurs défis aux moments opportuns. Il y a quelques années... et de vivre selon leurs moyens. Pour réduire les inégalités, il faudrait s'inspirer de pays sociaux-démocrates comme la Suède, le Danemark ou la Finlande. Or, la dette publique de ces pays est nettement plus basse, avec des taux oscillant entre 45 et 60 65% de leur PIB, comparativement à 105% du Québec. Les moyens que prend le gouvernement Couillard pour parvenir au déficit zéro, et donc juguler la croissance de la dette, sont souvent critiquables. En ces temps difficiles, il faudrait un leader rassembleur, compatissant, innovateur. Et malheureusement, certaines mesures contribueront probablement à accroître les inégalités. Mais soyons francs, pour l'essentiel, ce n'est pas l'austérité qui sera responsable de cet accroissement, mais nos décisions passées. Alors, l'article est peut-être un peu moins prometteur que le titre ne le laissait supposer, parce que on n'aura pas établi très clairement le lien entre la dette et les inégalités sociales. On voit bien qu'il y a des choses qui se profilent, elles sont un peu par en dessous. Ça nécessitera qu'on revienne là-dessus et qu'on fasse des développements supplémentaires en espérant que nos journalistes iront même plus profond.
Oui, mais le paradigme demeure que si on combat trop la dette, on risque d'étouffer l'économie et la relance et finalement de nuire à l'accroissement de l'économie qui servirait à payer la dette. C'est un piège. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine qui est parue cette semaine, étude qui a été commandée par un syndicat, la Centrale des syndicats démocratiques, qui conclut que depuis les réformes fiscales de 1997, on a fait cadeau au Québec d'un impôt moyen aux plus riches de 4,5 milliards par année.
Ouais.
Ce qui, sur notre dette accumulée, réglerait à peu près le problème si on n'avait simplement pas touché à cet impôt.
J'ai une question pour vous, François. Seriez-vous keynésien?
Tout à fait. Allez, moi aussi, je vais continuer en vous parlant de finances publiques, plus particulièrement de José Boileau et de mon fonctionnaire préféré, c'est-à-dire le directeur parlementaire du budget à Ottawa, dont les avis éclairés ont le chic pour prendre à contre-pied le gouvernement conservateur. Cette fois-ci, on parle de fractionnement du revenu. Vous vous rappelez, c'est cette mesure phare que le gouvernement Harper a donnée aux Canadiens rétroactivement au 1er janvier 2014, un beau cadeau électoral pour sa base électorale à lui. Ça, finalement, contrarie José Boileau du Devoir dans un texte du 18 mars 2015, « Financer les riches ». Stephen Harper ne déroge pas à sa pratique. Flatter à tour de rôle différents segments de l'électorat en dépit du bon sens, en dépit des critiques. Sa déclaration sur les armes à feu en offre un exemple éclatant. Mais au-delà des petites phrases, ses politiques ont aussi un épouvantable effet structurant. Ainsi, du fractionnement du revenu des couples avec enfants décortiqué mardi par le directeur parlementaire du budget. Dès que Stephen Harper avait fait part de ses intentions en 2011, les analystes s'étaient mis au travail. À qui allait profiter cette promesse de fractionner le revenu des ménages pour que le père de famille, mieux payé, puisse transférer une partie de ses gains à sa conjointe moins bien rémunérée, nous précisons le sexe à dessein puisqu'il est dans l'objectif politique, afin de payer moins d'impôts? La réponse, instinctivement évidente, fut implacable, aux ménages aisés. De 85 % selon l'Institut CDR à 90 % selon l'Institut Broadbent. Des ménages canadiens n'en retireraient rien du tout. Un gigantesque transfert des richesses de 9 Canadiens sur 10 vers les plus aisés, résumait le directeur général de l'Institut Broadbent. Les monoparentales au secours des riches maris et de leur épouse au foyer. L'affaire suscitait des tiraillements au sein même du gouvernement. On se rappellera que le ministre des Finances qui est décédé, j'oublie ça, Flaherty, avait refusé de mettre en place cette mesure-là pendant tout le temps où il avait été en place. Le projet a donc été retravaillé pour lui mettre des balises. Un transfert maximal de 50 000 $ pour une économie d'impôt maximale de 2 000 $. Et l'automne dernier, le premier ministre Harper en annonçait la mise en place pour l'année d'imposition 2014, noyant son iniquité derrière une promesse en argent sonnant, le versement d'une prestation universelle pour la garde d'enfants à toutes les familles du pays qui comptent des enfants de moins de 18 ans. Le premier chèque, qui cumulera les sommes dues depuis le 1er janvier 2015, sera versé cet été, assez près des élections pour que chacun ait en mémoire les centaines de dollars reçus. Le directeur parlementaire du budget, lui, n'a que faire de cette poudre aux yeux, et son étude rendue publique mardi souligne, sans qu'on puisse l'accuser de parti pris, que le fractionnement, même redessiné, privera à lui seul l'État de 2,2 milliards de dollars. Il confirme de plus que la mesure ne touchera que 15 % des familles canadiennes. De ce lot, les plus avantagés seront ceux dont l'écart de revenus dans le couple est de 100 000 $. Ajoutons que les effets négatifs d'une telle mesure sur l'emploi seront plus grands, incitant des femmes à quitter le marché du travail, que les gains réalisés par les plus fortunés. Bref, que de la nuisance partout, sauf pour les conservateurs. Car, nous disent d'autres études, où donc cette mesure inique déploiera-t-elle le mieux ses effets? En Alberta et en Saskatchewan, terre conservatrice, 40 députés du Parti conservateur élus en 2011 sur les 42 circonscriptions fédérales que comptent les deux provinces. Où l'on trouve le plus de ménages avec enfants. Là-bas, les économies d'impôts seraient deux fois plus importantes et même davantage que celles constatées dans les provinces maritimes ou au Québec, endroit où, par ailleurs, la majorité des ménages se retrouvent dans la tranche d'impôts la plus basse. C'est le modus operandi de ce gouvernement. Tant pis pour l'économie ou le bien-être de la collectivité canadienne. Il vise des cibles qui pourront électoralement lui rapporter, poussant le clientélisme dans ses plus subtils retranchements. Il lui fallait satisfaire la famille traditionnelle, c'est fait. Celle-ci n'est plus dominante au Canada? Pas grave, il trouvera un autre argument pour séduire une autre tranche de l'électorat. Les armes à feu à portée de la main pour les régions éloignées, le refus du NICAB pour le Québec, la crainte du terrorisme dans les milieux urbains. La manière est primaire, mais jusqu'à présent, hélas, elle fonctionne. Car qui se soucie des analyses?
Y'a des bruits qui circulent, ridicules, fascicules, fascisants, de la pub culturelle, du cul, de la poubelle, qui sera la plus belle. Des regards pleins de faux, pleins de beaux sentiments pour les marques. Se démarquer, c'est le mot d'ordre et l'ordre des mâles, pour le pire et pour le pire, pauvre riche. Pauvre riche. Uniforme, formaté, des slogans rassembleurs ressemblant aux appels de rassemblement sans discernement. Aux cris de guerre, les tueries n'ont pas de frontières. Aux cris de guerre, les tueries n'ont pas de frontières. Pas de papier, mais des formulaires, des formules diplomatiques. La gymnastique des mots démunis, dilués, dire que les mots manipulent. Combien de morts, combien de corps, la faute à qui, la faute à quoi, la photo. Pauvre riche. Pauvre riche. Et la faux qui tend les bras, c'est la mort qui gagne les guerres. Pas de mystère, plus de terre mise à feu, mise à nu, et ceux qui misent là-dessus reconstruisent. Propriétaires opportunistes, barba, papa, poupée sans bras et brancardier, écraseur patenté. Pauvre riche. Pauvre riche. Pauvre riche. Les pauvres, pauvres. Mais plus pauvres, les pauvres. Pauvres, les plus pauvres, les pauvres riches. Mais plus pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres, pauvres. Mais plus pauvres, les pauvres, pauvres riches. Mais plus pauvres, les pauvres, pauvres riches. Mais plus pauvres, les pauvres riches. Mais plus pauvres, les pauvres, pauvres.
Oui, alors pauvre riche, une situation sûrement très française puisque ça ne nous arriverait pas chez nous, ça, des choses comme ça. Ceci dit, vous avez peut-être un fonds de pension ou alors un REER ou alors des économies, un CELI, et vous voulez que votre argent serve à des choses bien. On parlait des Quakers tout à l'heure.
Mais c'est un noble projet, je suis sûr que c'est le vôtre, François. Et,
avoir absolument de l'argent, oui, éventuellement. Mais,
alors quand vous en aurez encore plus. Eh bien, je suis sûr que votre conviction, qui est certainement déjà établie, c'est qu'il faut prendre les facteurs sociaux et environnementaux, d'éthique, en plus de ceux de performance financière. Alors, est-ce que c'est une façon de réconcilier morale et profit? Ah, on aimerait tellement ça. Est-ce que c'est possible? Alors, Pierre Vallée, dans Le Devoir, s'y est intéressé. Et il va donc nous parler, je vais vous lire, ce qu'il dit sur l'investissement socialement responsable. Depuis les premiers balbutiements, il y a environ 25 ans, l'investissement socialement responsable, donc on va l'appeler ISR pour simplifier, a pris du galon ici au Québec comme dans le reste du Canada. Et il est appelé à se développer davantage et à occuper une plus grande place sur les marchés financiers. Nous avons introduit notre premier produit d'épargne responsable, le Fonds Desjardins Environnement, en 1990, souligne Rosalie Vendette, conseillère principale en investissement socialement responsable chez Desjardins. C'est un beau métier, ça, conseiller en investissement responsable. Moi, je trouve que ça contrebalance bien, vous savez, tous ces métiers-là, des gens qui s'achètent des dizaines de Porsche simplement en ayant appuyé sur un bouton pour appauvrir la moitié de l'Inde. Non ? Bon. Excusez-moi, je ne sais pas, ça m'a échappé, c'est stupide. Il s'agissait alors de nos premiers pas en développement durable. Ce qui fait que cette instance financière est non seulement une pionnière en la matière, mais aujourd'hui le leader québécois en ISR et l'un des joueurs importants dans le marché canadien grâce notamment à son association avec le Provincial Credit Union Central, dont la firme de placement NEI, un manufacturier de fonds commun de placement ISR. Ça me rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques temps, on avait souligné le fait que Desjardins était la deuxième banque la plus fiable au monde. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas incompatible de faire du moral, du social et du financier. On va y arriver. Aujourd'hui, Desjardins a sous gestion 1,6 milliard de dollars d'actifs ISR, c'est-à-dire 7% de l'épargne sous gestion et 17% des clients individuels de Desjardins. Ce n'est pas comme la voiture électrique. Hein?
Oui, mais ça veut aussi dire que 83% des clients de Desjardins n'ont aucune considération à cet égard et que 97% de leur argent peut servir à des fonds irresponsables.
C'est terrible. Là, je vois votre tasse de café devant vous. Là, elle est toujours à moitié vide. C'est impressionnant. Bon, oh, mais vous avez raison, sinon... Allez, au Canada, l'ISR totalise une somme au Canada, hein, une somme de 1 000 milliards et représente 31% de tout l'actif sous gestion au pays. Et l'importance de l'ISR au Canada s'explique par la présence toujours grandissante des investisseurs institutionnels comme les grandes caisses de retraite qui ont pris le virage ISR et qui ont de plus d'actifs ISR dans leur portefeuille. Alors voyons un peu ce que c'est que le principe et les modalités de cet ISR. Le principe derrière l'investissement socialement responsable est simple. Il s'agit non plus d'évaluer un investissement au travers du seul prisme du rendement financier, mais aussi d'inclure dans l'équation des considérations écologiques, sociales et de gouvernance. Ainsi, un ISR sera jugé tel si l'entreprise dans laquelle on investit répond à des critères autres que le critère financier, bien que ce dernier ne doive pas être pour autant négligé. Deux approches distinctes sont ici permises, la première est celle de l'exclusion et la seconde celle du dialogue. Elle est possible, par exemple, avec les sociétés qui font des armes à feu. À voir. Dans le premier cas, la présence de l'entreprise dans un fonds ISR est carrément exclue. Par exemple, chez Desjardins, nous avons une politique d'exclusion pour les entreprises œuvrant dans les domaines de l'armement, du tabac et du nucléaire. Moi, ça m'embête qu'on mette dans le même sac nucléaire, tabac et armement. Les deux premiers, je veux bien, après tout, qu'ils se bagarrent dans un sac, c'est bien. Mais nucléaire, c'est...
On pourrait imaginer, par exemple, une entreprise qui fait des isotopes pour des fins médicales. C'est tout à fait légitime.
Voilà. L'approche du dialogue se veut plus inclusive. Dans ce cas, nous allons évaluer le comportement en matière d'ESG de l'entreprise. Si cette dernière ne répond pas tout à fait à nos exigences, mais qu'on voit que l'entreprise fait des efforts en ce sens, nous allons peut-être décider de l'inclure, malgré tout, dans notre portefeuille ISR.
Oui, ça, c'est la classique des classiques qui fait que dans la plupart des portefeuilles ISR, on trouve des actions de Royal Dutch Shell, puisque c'est la pétrolière qui fait le plus d'efforts en rétablissement de l'environnement.
Oui,
alors... La vérité, c'est qu'on a besoin des rendements des pétrolières, puis ça en prend une.
Eh oui, voilà, toujours pareil. Dénoncer les contradictions et vous brisez nos rêves. Mais bon, tant pis, il faut bien. Par contre, cela implique qu'un dialogue s'installe afin de s'assurer que l'entreprise met en place les mécanismes nécessaires afin de satisfaire à nos exigences en matière d'ESG. Évidemment, une entreprise qui ne ferait pas les efforts nécessaires se verrait alors retirée du portefeuille de placement. Quand je vois ce mot retiré, je songe à celui de Tartuffe. Laurent, retirer ma haire et ma discipline. Non, c'est resserrer ma haire et ma discipline. Oui, j'ai confondu retirer et resserrer, mais ce n'est pas par hasard. C'est par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure sur nécessité d'avoir du rendement tout en ayant un petit halo de moralité. Si les grands investisseurs institutionnels ont dans leur portefeuille des actifs ISR, les individus peuvent aussi avoir des actifs ISR dans leur propre portefeuille. Au Québec, Desjardins offre déjà plusieurs de ces véhicules d'ISR, dont les fonds environnement Desjardins et le placement garanti prioritaire. C'est joli ça, prioritaire. Les fonds prioritaires, TE2RE. Mmh. Les fonds environnement des jardins sont composés d'entreprises ayant un bon bilan quant à la gestion de la portée écologique de leurs activités. Mon avis, TransCanada n'est pas dedans. Le placement garanti prioritaire est un dépôt à terme dont le capital est garanti à 100%, mais dont le rendement varie selon la performance des titres des entreprises qu'il compose, toutes responsables sur le plan écologique. Desjardins offre aussi quatre portefeuilles sociétaires, qui, toujours pareil, le jeu de mots TE2RE, qui fonctionnent à la manière d'un fonds commun de placement. Les portefeuilles sociétaires sont composés de fonds environnement Desjardins et de fonds éthiques. Chaque portefeuille sociétaire est élaboré selon la tolérance au risque et les attentes de rendement de l'investisseur. Le portefeuille sécuritaire s'adresse aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque et la pondération est de 72% de titres à revenus fixes, 28% de titres de croissance, c'est-à-dire les actions. À l'autre bout du spectre, le portefeuille sociétaire Croissance Plus s'adresse à l'investisseur ayant une tolérance moyenne au risque et à la pondération est de 20% de titres à revenus fixes, 80% de titres de croissance. Tout ça, c'est des modèles très classiques de placement pour des produits qui peuvent ne pas être aussi moraux. L'investissement socialement responsable, s'il maintient son élan, est appelé à croître. De 2009 à 2014, l'ISR a vu ses actifs croître de 530%. Et on croit que ce produit pourrait intéresser éventuellement de 50 à 75% des investisseurs dans le marché. C'est un potentiel de croissance important. Si Desjardins a réussi aujourd'hui à occuper une place enviable dans le marché de l'ISR, c'est que l'établissement financier y a mis les efforts. Bon, tout ça, c'est très encourageant. Je pense que les chiffres sont justes et que ça décrit une tendance. Et effectivement, on peut quand même conclure que ça fait pas très longtemps, quelques décennies, que ça a été mis en place. Et ça s'est développé assez rapidement. Alors peut-être une petite lueur d'espoir, une petite flamme au fond de votre tasse à café à demi-vide.
Une première en Russie, puisque General Motors a annoncé la fermeture de son usine Opel, pas tellement loin de Leningrad, Saint-Pétersbourg. Vous voyez comme j'ai des vieux réflexes. Le constructeur américain devient ainsi la première grande multinationale de l'automobile à jeter les gants en Russie. On ne voit pas le jour où le marché russe pour le véhicule populaire va sortir du marasme. Ça va avec la récession actuelle.
Savez-vous que l'alcool en poudre arrive sur le marché? C'est un petit peu inquiétant, mais les Américains viennent de donner le feu vert et on va pouvoir s'en acheter très prochainement.
Déjà la fin de la première moitié de cette émission, on fait une courte pause et on se retrouve de l'autre côté.
Écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième demi-heure et on commence immédiatement sur les chapeaux de roue avec un autre texte de Madame Boileau du ça va mal ce matin, je suis pas réveillé de José Boileau du Devoir puisque faut savoir que la mine Arnaud à Sept-Îles qui déchire la population en deux parties égales depuis plusieurs années, est-ce qu'on va l'ouvrir ou pas? Bien, elle a reçu le feu vert du gouvernement du Québec dans un procédé qui finalement est discutable, mais dans un contexte qui, lui, l'est moins. Il faut savoir qu'il y a des mines qui ferment dans la région de Sept-Îles, du chômage dans une région où on ne le connaissait pas beaucoup. On est plutôt habitué aux revenus que génèrent ces entreprises. Alors, c'est un soulagement économique, oui. Est-ce un soulagement environnemental, puisque la mine, c'est tout à côté de la baie de Sept-Îles? Donc, José Boileau nous parle du procédé, du processus et du protocole. « Manque de distance », c'est le titre de son texte. Le gouvernement a beau s'emballer, le projet de mine Arnaud à Sept-Îles reste aussi opaque en ce lundi où le feu vert lui a été donné qu'il l'est depuis un an. Et il faut faire confiance, semble-t-il. Tout un acte de foi, alors que Québec est non seulement juge et partie du projet, mais en démarche de vente de son grand œuvre, le Plan Nord. La distance manque dans cette affaire et il faudrait être confiant. Qui a vraiment douté que le controversé projet de mine d'apatite à ciel ouvert à Sept-Îles serait autorisé? En dépit du rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, qui en février 2014 posait une foule de questions sur ce projet qu'il jugeait inacceptable et à modifier, les libéraux de Philippe Couillard lui ont toujours donné leur appui. De toute manière, cette île ou ailleurs, le scénario ne change pas. La perspective de créer des emplois l'emporte sur toutes les réserves et rares sont les élus qui y résistent. Cette île s'est déchirée sur Ménarnaud et des manifestations ont été organisées tant par les pour que par les contre. Mais c'est à la manifestation d'appui au projet que s'étaient rendues les candidates libérales, péquistes et caquistes de la région lors de la campagne électorale du printemps dernier, même si elles s'abritaient derrière la nécessité que les exigences du BAP soient respectées. Elles le seront, a finalement dit lundi le ministre du Développement durable et de l'Environnement, David Hurtel, flanqué du ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcan, et du ministre délégué aux mines, Luc Blanchette. On envoie envoyé du très beau monde à cette île pour annoncer l'ouverture. Mais le dévoilement des études qui corrigent les lacunes notées par le BAP est à venir, et Québec ne nous dit pas comment il s'assurera que les engagements pris par Ménarnaud seront respectés. On va de l'avant avant d'être transparent et, en cas de problème, il y aura un système de gestion des plaintes. « Soyez rassurés », répétait le ministre Hurtel. « Mais ce n'est pas une affaire de confiance. Il faut s'en tenir aux faits. Et ceux qui touchent la contamination de l'air et de l'eau, la stabilité des sols, le niveau sonore, il y aura une explosion par jour pendant les 28 années d'exploitation de la mine. La cicatrice en ville, la plus grande mine à ciel ouvert en zone habitée au Québec. » Et la viabilité économique même du projet, le prix de la tonne de phosphate qui sera exploitée ne cesse de baisser vu l'importance de la production mondiale, n'ont pas été mis sur la place publique depuis le rapport du BAP. Et même s'il s'agissait de confiance, c'est le gouvernement qui, par l'entremise d'Investissement Québec, s'est lancé dans cette affaire pour créer en partenariat avec la firme norvégienne Yara Ménarnaud Inc. Un troisième partenaire exploitant de mines se joindra à eux, apprenait-on lundi. Qui? Encore le silence. Les millions déjà investis par Québec et sa détermination à lancer le plan Nord en se posant lui-même comme modèle à suivre annonçaient l'affaire entendue. Non, le bras droit gouvernemental ne l'a certainement pas bloqué ce que le bras gauche faisait. En fait, c'est plutôt le bras gauche ici qui est bloqué par le bras droit. Québec n'avait aucun intérêt à se montrer transparent comme l'exigerait pourtant l'idéal démocratique pour un projet aussi important aux conséquences environnementales indéniables et qui aura cours pendant des décennies. On comprend que la région a besoin des emplois promis et l'économie est évidemment un facteur dont il faut tenir compte. Mais le rôle des élus devrait être d'encadrer les entreprises avant de les applaudir, de rassurer les citoyens preuve à l'appui avant de donner des feux verts. Et d'avoir une vision moins univoque du développement. Au 21e siècle, s'assurer de la qualité de vie de l'environnement, c'est aussi miser sur l'avenir et la prospérité du Québec. Et je ne peux pas m'empêcher ici de vous parler de Malartic, où la population immédiatement riveraine de la mine d'or à ciel ouvert, qui est maintenant au centre-ville de Malartic, se plaint de la poussière, de la qualité de vie, se plaint des dommages causés à leur maison, de la valeur de revente de leur maison. Tout ça sans aucune démonstration et jusqu'à maintenant sans aucune compensation. On n'en attendait pas moins d'elle. Naomi Klein condamne mais vertement l'attitude du gouvernement québécois, sa condescendance avec le projet de pipeline Énergie Est.
Oui, et on reste sous terre, si je puis me permettre cette transition avec ce que vous nous disiez à l'instant. Et effectivement, l'auteur et militante Naomi Klein critique la position du gouvernement Couillard sur le projet de TransCanada. Je la cite, hein, elle a dit « Il y a un mouvement continental très fort contre les sables bitumineux et le Québec a un rôle important à jouer pour prendre part à cette opposition au lieu de devenir un allié des compagnies pétrolières. » C'est net, c'est clair, tout est dit. Il n'y a pas d'ambiguïté conformément à la façon dont elle s'exprime habituellement. Alors, ça a été repris par Alexandre Shields dans un article du Devoir du 16 mars. Et qui, dont le titre est également sans aucune équivoque, « Énergie Est, dire oui est immoral ». En se montrant favorable au méga-projet de pipeline de TransCanada, le gouvernement Couillard s'apprête à devenir complice du pire crime contre le climat de la planète, soit la croissance de l'exploitation des sables bitumineux. C'est ce que soutient l'auteur et militante Naomi Klein, qui déplore du même coup le silence complet des libéraux sur les impacts climatiques du projet Énergie Est. Je trouve cela franchement choquant qu'un projet comme celui-là soit apparemment déjà approuvé par le gouvernement du Québec, déplore-t-elle en entrevue au Devoir, dans le cadre de la sortie de « Tout peut changer », son cinquième ouvrage consacré au changement climatique. Même le gouvernement américain de Barack Obama oppose une résistance certaine au projet Keystone XL de TransCanada, qui est pourtant moins imposant, ajoute cette figure de proue du mouvement altermondialiste. Elle adresse d'ailleurs un sérieux avertissement au gouvernement de Philippe Couillard, qui dit vouloir lutter contre la menace que représentent les bouleversements climatiques. Si ce pipeline est construit, le Québec deviendra le complice du pire crime contre le climat dans le monde, car il ne fait aucun doute qu'un pipeline de cette dimension, qui transportera 1,1 million de barils de pétrole par jour, est intimement lié à la croissance de la production des sables bitumineux albertains. Pour référence, 1 million de barils par jour, c'est la production du Venezuela, troisième producteur au monde. Alors que Keystone XL est bloqué du côté américain et que l'opposition envers le pipeline Northern Gateway est toujours très forte, Naomi Klein estime qu'Énergie Est est justement devenu un projet crucial pour le lobby de l'énergie fossile. Mais dans ce contexte de pression de l'industrie, dire oui serait totalement immoral. Le Québec doit plutôt saisir l'occasion d'envoyer un message fort. Au lieu de se faire le complice d'un tel crime, il doit agir pour faire changer les choses dans la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement Couillard a cependant décidé de passer outre à la question des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production pétrolière qui coulera dans ce pipeline. C'est intéressant cette expression « passer outre » parce qu'on peut toujours passer outre avec des mots. Par contre, les choses, elles ne passent pas outre. Bien, pardon. C'est une décision que déplore la militante. Le Québec ne tient pas compte des impacts du projet sur les changements climatiques alors que même le président américain a dit, dans le cas du projet Keystone XL, qu'il devait passer le test du climat. Comment le Québec peut-il prétendre avoir le moindre engagement envers la lutte contre les bouleversements du climat en ne tenant pas compte de cette question dans le cas d'Énergie Est ? On est saisi par la profondeur et la simplicité de cette question et par l'absence d'écho en réponse. Selon cette journaliste collaboratrice du quotidien britannique The Guardian, ce qui se passera au Québec au cours des prochains mois fera sans aucun doute l'objet d'une attention internationale. Je sais que vous n'avez pas un gouvernement progressiste actuellement, mais le monde compte sur le Québec, lui demande de demeurer dans sa tradition progressiste. Il y a un mouvement continental très fort contre les sables bitumineux et vous avez un rôle important à jouer pour prendre part à cette opposition au lieu de devenir un allié des compagnies pétrolières. Et ça, c'est très vrai. L'image qu'on peut avoir du Québec quand on en est très loin, quand on est en Europe, par exemple, à cause des grands espaces, à cause de tout un tas d'éléments qu'on voit très bien, c'est
cliché,
que c'est une espèce de phare comme ça écologique. Et la réalité, parce qu'il n'y a pas de centrale nucléaire, enfin il n'y en a qu'une, etc. Et tout ça finit par faire une certaine confusion, parce qu'on se dit que bon, bah, les sables bitumineux, en fait c'est surtout nord-américain, c'est pas québécois. Et puis quand on va dans le détail, ce que fait Naomi Klein, on s'aperçoit que c'est pas exactement la réalité. Et en ce sens, se servir comme faunée d'une réputation comme ça, écolo, qui vient toute seule et pour laquelle on n'a rien fait, pour mieux s'abriter derrière et faire ça, je crois que c'est vraiment important de le dénoncer. En acceptant la construction de plus de 700 km de pipeline sur son territoire, le Québec s'enchaînerait pour plusieurs décennies à la croissance de l'industrie. Un pipeline comme Énergie Est, rappelle Naomi Klein, nécessitera des investissements de 12 milliards de dollars. Il est donc à prévoir que cette infrastructure sera utilisée à long terme, transportant chaque année plus de 400 millions de barils de pétrole brut. Chemin faisant, le pipeline traversera le territoire de 69 municipalités du Québec, mais aussi 641 cours d'eau. L'auteur et cinéaste de renommée internationale estime en outre que si le gouvernement du Québec ne joue pas son rôle, il laissera le champ libre à l'Office national de l'énergie, organisme fédéral chargé d'étudier les pipelines. Mais cette institution est, selon elle, totalement discréditée. Ils ne sont pas neutres du tout. Ils ont approuvé Northern Gateway alors que les audiences ont clairement démontré que ce projet était inacceptable. Et depuis, le gouvernement Harper a changé les règles pour accélérer les approbations. En fait, il n'y a pratiquement pas de différence entre l'industrie qui fait la promotion des pipelines et le gouvernement fédéral. Le gouvernement Couillard promet toutefois de mener sa propre évaluation environnementale du projet Énergie Est, et ce depuis mai 2014. Qu'est-ce que c'est que mener sa propre évaluation? Si on ne la confie pas à quelqu'un d'extérieur, de neutre, ça veut absolument plus rien dire.
En théorie, voyez-vous, quand on a annoncé le projet, le gouvernement avait annoncé une évaluation environnementale et on s'attendait à ce que ça comporte effectivement l'impact de l'augmentation de la production de sable bitumineux. Or, la première ministre Albertin est venue faire un tour à Québec où ils ont jasé, elle et son homologue québécois, et quand elle est sortie, cette évaluation environnementale-là était réduite à la peau de chagrin que constitue le dérangement que la construction du pipeline va apporter à l'environnement. Alors, on n'est plus du tout dans ce que le pipeline fait, mais dans ce que mettre en place le pipeline, qu'est-ce que ça va causer à l'environnement? C'est à ça que Québec veut se limiter. Pendant qu'à Ottawa, l'Office national de l'énergie, lui, n'a absolument pas le droit de se pencher sur le réchauffement climatique puisque c'est en dehors de sa compétence. Il a le droit de dire que c'est profitable économiquement, mais il n'a pas le droit de dire que ça ne l'est pas écologiquement. Alors, c'est comme un dialogue où on a des compétences complètement enchaînées qui ne peuvent aller que dans une direction, l'approbation du projet.
Et on a procédé à front renversé en mettant les termes exactement à l'envers pour pouvoir arriver à une logique exactement contraire à celle qui aboutirait si on suivait effectivement ces examens environnementaux de façon un peu plus cohérente. Au-delà de ce controversé projet de pipeline, le gouvernement libéral entend aussi lancer le Québec sur la voie de l'exploitation pétrolière avec des projets privés déjà bien avancés en Gaspésie et le financement public de forages sur l'île d'Anticosti. Je m'arrête là parce qu'on a un peu commenté. Mais très franchement, c'est très préoccupant parce que cette dernière phrase l'est encore plus. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Apparemment, on ne va pas s'arrêter.
La France, on l'aime ou alors on la quitte. Aux vacances prochaines, il ira en Égypte. On est sûr de bronzer, vu le prix que ça coûte. Alors là, pas de doute, il sait bien ce qu'il veut. D'ailleurs, il est très clair, il faut ouvrir les yeux. Mais fermer les frontières, c'est rien que des feignants. Ça veut jamais bosser, mais ça vole pourtant le travail des Français. Mais quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on est réaliste, ben lui, il en revient pas d'être aussi peu raciste. Il est souvent même assez tolérant. La preuve, il a un pote coréen comme un accent. Mais là, c'est l'exception qui confirme la règle. On serait bien dans la merde s'ils étaient tous français dans l'équipe de France. Et comme il est inquiet chaque fois qu'il y pense, cela bien entendu qu'il faut pas les confondre. Ils sont les bienvenus pendant la Coupe du Monde. Et quand on voit ce qu'on voit, et puis quand c'est ce qu'on sait, ben lui, il en revient pas l'avoir toujours pensé. Bien sûr, et puis c'est évident qu'une femme s'est fait pour garder les enfants, pas pour être voilée. Lui, la sienne, c'est vrai qu'elle est libre au foyer. Mais entre le tchador et puis les kamikazes, c'est toujours la goutte d'or qui fait déborder le vase. Et là, c'est la panique. On dira ce qu'on veut, c'est pas très catholique de croire autant en Dieu. Mais quand on voit ce qu'on voit et puis qu'on vit ce qu'on vit, ben lui, il en revient pas de l'avoir toujours dit. C'est très logique et pas du tout facho. Mais que fait la police avec tous nos impôts? Cela dit, faut ce qu'il faut. Décider, il en a, lui, il vote à chaque fois. C'est la démocratie, il a le droit de s'exprimer. N'en déplaise aux gauchistes, aux femmes et aux PD. Puis comme il est d'accord que la vie c'est sacré, tous les hommes sont frères, c'est la démocratie. Tous les hommes sont frères. Mon Dieu, mais quelle famille!
Agnès Bill, quand on voit ce qu'on voit, un choix musical de Rémi Hermoso qui assure la mise en onde de cette émission. Avant d'aborder mon prochain sujet, je vais vous parler d'un match de boxe, pas celui où Jean-Pascal s'est fait démolir par Kovalev cette semaine, non, non, d'un match de boxe qui était là pour soutenir des fins caritatives. Les deux pugilistes montent dans le ring, et on ramasse de l'argent, et on aurait descendu en arrière d'un bar. Le gagnant, imaginez-vous, est curé de son état. Alors, il n'y a qu'un endroit sur Terre où un tel match de boxe pouvait se tenir, c'est évidemment en Irlande. Il n'y a rien de plus, irlandais qu'un curé qui se bat dans un ring. Écoutez, ça m'amène à vous parler de l'Irlande, puisque l'Irlande est maintenant la championne de la croissance en Europe. Après avoir été un des pays aidés par la Troïka, mais il faut dire que sa situation n'était pas, et il s'en fout de beaucoup, celle de la Grèce. Je vais quand même vous lire le texte d'Éric Albert qui a été publié dans Le Monde est repris dans Le Devoir. L'Irlande, championne d'Europe de la croissance. Même les chauffeurs de taxi de Dublin commencent à le dire. L'économie irlandaise va mieux et désormais cela se sent sur le terrain. Jeudi dernier, les statistiques officielles sont venues confirmer ce progrès. Le produit intérieur brut de l'Irlande a augmenté de 4,8% en 2014, ce qui en fait le pays qui enregistre la plus forte croissance de l'Union européenne. Symboliquement, c'est aussi une page qui se tourne. Le PIB passe juste au-dessus de son pic de 2008. Les 6 années de crise sont effacées, du moins au niveau des chiffres. Bon élève de la Troïka, son bailleur de fonds, l'Irlande a suivi à la lettre les recommandations de Bruxelles et du Fonds monétaire international. Pendant 7 années, elle a multiplié les coupes budgétaires et les hausses d'impôts, menant une politique d'austérité très dure. Au total, l'État a réduit ses dépenses de l'équivalent de 20 % de son produit intérieur brut. C'est énorme, ça. Dans le même temps, les salaires du secteur public ont baissé et le marché immobilier s'est effondré avec des prix divisés par 2. Ça aussi, c'est énorme et ça, c'est pas réparé. Le remède de cheval a porté ses fruits. Petit pays, traditionnellement tourné vers les exportations et très ouvert aux multinationales, l'Irlande a gagné en compétitivité. Les grands laboratoires pharmaceutiques et désormais les géants de l'Internet ont multiplié les investissements, attirés par une main-d'œuvre qualifiée mais pas trop chère et des locaux à prix cassé. Ils profitent aussi de la fiscalité sur les entreprises très généreuse avec un taux d'imposition de 12,5% sur les sociétés et beaucoup moins en profitant de certains montages juridiques comme on en avait déjà parlé à cette émission. Cette décision de faire la chasse aux investisseurs étrangers s'est traduite par une forte hausse des exportations qui ont augmenté de 13 % en 2014. Le pays est dans une situation d'autant plus confortable que ses deux zones traditionnelles d'influence, le Royaume-Uni et les États-Unis, sont aussi des économies qui ont rebondi. Mais la dureté de l'austérité a longtemps écrasé l'économie intérieure qui s'est contractée d'un quart pendant la récession. Le chômage a atteint un pic de 15 % en 2012. La consommation est restée négative ou stagnante pendant 6 ans. L'année 2014 a finalement marqué un tournant. Pour la première fois depuis la crise, la consommation des ménages a augmenté. La hausse n'est que de 1,1 %, mais c'est un réel progrès. L'aspect le plus encourageant de cette reprise, c'est le rebond de la demande intérieure, explique dans une note Alan McQuaid, économiste chez Merion Stockbrokers. L'une des explications est la forte baisse du chômage, qui est revenue à 10,1 % inférieur au niveau français. Progressivement, l'Irlande retrouve un cercle économique vertueux. Les investissements étrangers apportent des emplois qui créent de la consommation, qui aident l'économie intérieure. Le ministre irlandais des Finances, Michael Noonan, a salué une croissance économique plus équilibrée, avec des exportations en hausse grâce à des gains de compétitivité et une demande intérieure qui est de nouveau en progression. L'amélioration économique se traduit dans les finances publiques. Après la faillite des banques qui ont toutes été nationalisées, le déficit a culminé à 32 % du produit intérieur brut en 2010. L'Irlande a alors perdu la confiance des marchés financiers et l'État a dû recourir à un plan de secours de 67 milliards d'euros du Fonds monétaire international et de l'Union européenne. Fin 2013, elle s'en sortait. En 2014, le déficit n'était plus que de 3,8 %. Il doit passer sous la barrière des 3 % cette année, ce qu'on aimerait tant faire en France depuis des années. Cette maîtrise des comptes publics a permis à l'État de mettre fin à l'austérité. Le budget 2015 est fiscalement neutre, n'augmentant pas les dépenses, mais ne les réduisant pas. Mais le rebond irlandais est à prendre avec prudence. Les cicatrices de la dépression sont encore partout. De nombreuses villes fantômes sont à l'abandon dans les campagnes. Ces lotissements construits juste avant la crise ont été désertés quand les prix immobiliers se sont effondrés. Aujourd'hui, 120 000 Irlandais, soit 2,5% de la population, ont un retard dans le remboursement de leurs prêts immobiliers. La grogne se fait aussi entendre dans la population, qui était restée étonnamment stoïque pendant les années d'austérité. La mise en place d'une facturation de l'eau potable effective à partir d'avril a provoqué en novembre 2014 les plus grandes manifestations de toute la crise économique. Imaginez ici au Québec s'il fallait que le gouvernement décide qu'il va nous facturer l'eau, la réaction. Ce serait épique. Si à Dublin, les chauffeurs de taxi retrouvent progressivement le sourire, il faudra encore des années pour que leur optimisme se propage à toute la population.
Alors, quelques brèves pour terminer. J'en ai une qui va vous faire plaisir. Figurez-vous qu'une banque britannique a annoncé vendredi étudier la possibilité que ses clients utilisent des bracelets mesurant les battements de cœur afin d'accéder à distance à leur compte bancaire plutôt que de recourir à un bête mot de passe. Alors, ce qui est bien, c'est que le battement de cœur, ça ne se copie pas. C'est peut-être de là que vient l'expression avoir le portefeuille à gauche,
non? Oui, peut-être, mais j'aurais quand même des émois en regardant mon compte en banque. C'est pas bon, c'est pas pour moi, ça. Il y a eu un tremblement de presse cette semaine au Québec alors que le groupe Jesca, qui était propriétaire de la presse, mais aussi de plusieurs journaux quotidiens, a vendu tout ce qui n'était pas la presse elle-même à un nouveau groupe de presse dirigé par Martin Cochon. Bon, ceci dit, il faut savoir que les journaux concernés sont Le Soleil à Québec, La Tribune à Sherbrooke, Le Droit à Ottawa, Le Quotidien à Chicoutimi, Le Nouvelliste à Trois-Rivières et La Voix de l'Est à Green Bay. C'est quand même le gros de l'information régionale. Martin Cochon, on en discute déjà puisqu'il est de la mouvance libérale. Son premier travail à vie, et ça ne s'invente pas, c'était maître d'hôtel chez les propriétaires de Jesca, Power Corp, donc les Desmarais. On se demande si c'est vraiment indépendant. En tout cas, c'est dans la filiation idéologique directe des propriétaires antérieurs.
Un petit caillou dans le jardin de la technologie, parce qu'il ne faut jamais oublier de regarder un peu des choses qui ne marchent pas quand elles sont drôles. Figurez-vous que la Suisse a acheté à une entreprise allemande un nouveau radar d'approche pour ses aérodromes militaires. Bon, on est déjà on est effrayés et puis très, très impressionnés. Mais il y a un gros problème. Figurez-vous que l'appareil confond les avions ennemis et les vaches suisses. Ah, ça, c'est un peu bête.
Oui, ça cloche. y a actuellement des gros mots qui s'échangent dans l'espace aérien. Des gros mots entre les compagnies américaines, les compagnies européennes et les compagnies de la péninsule arabe. En fait, les compagnies du Qatar, des Émirats arabes unis, qui ont de beaux avions neufs, qui sont propriétés de l'État. La question qu'on pose, c'est à partir de quand l'argent que le gouvernement met dans une compagnie aérienne cesse d'être un investissement et commence à être une subvention, parce que c'est le cas. Finalement, le Qatar Airways dit que Delta vole dans des avions pourris et les Européens et les Américains les accusent de subventionner le trafic et de finalement faire une concurrence déloyale.
Alors, si vous voulez améliorer votre santé cardiaque en modifiant votre alimentation, ne tenez pas compte simplement de ce que vous mangez, donc les 12 hamburgers, etc., mais du moment où vous mangez. Alors, c'est très sérieux et figurez-vous que pour faire ce genre d'études, on utilise un cobaye absolument extraordinaire qui est la mouche du fruit. Et la mouche du fruit, c'est tout petit, figurez-vous, ça fonctionne quasiment comme un humain. Eh bien, on a constaté que quand les mouches du fruit s'alimentaient avant 17 heures, elles faisaient deux fois moins d'accidents cardiaques. Pas mal, non?
Moi, c'est parce que j'essayais de prendre les battements cardiaques d'une drosophile. C'est quand même étonnant. En Allemagne, tout va bien? Non. Je viens de vous en parler, le transport aérien. Les Allemands se plaignent aussi contre les compagnies qatariennes. Mais il y a aussi une grève à la Lufthansa actuellement. Et c'est quand même la 12e journée de grève que connaît la compagnie. Cette fois-ci, c'est parce que les pilotes n'aiment pas que leur programme de pré-retraite soit coupé. Il y a 750 vols qui ont été annulés, principalement au départ de Francfort. Ça crée un bordel pas possible dans la compagnie. Toutefois, ses filiales ne sont pas touchées.
Oui, et puis il ne faut pas oublier que maintenant, ils sont obligés de faire attention aux vaches avant d'atterrir. Alors, je vous rappelle une date très importante pour ceux qui ont le temps et la détermination. Il y a une marche contre les changements climatiques qui est prévue le 11 avril à Québec. Pas seulement à Québec d'ailleurs, hein, ça sera un petit peu partout. Et c'est un signal d'alarme avant une rencontre qui doit se tenir le 14 avril. Et il paraît que Philippe Couillard a invité ses homologues canadiens à venir parler de lutte au changement climatique. Ils vont certainement bien rigoler ensemble.
Puisqu'on parle d'environnement, Charles Côté nous signalait cette semaine, Charles Côté de la presse, un découplage absolument étonnant. Ça fait 40 ans, voyez-vous, que la courbe de consommation d'énergie et celle de la croissance de l'économie, ben, ce sont les mêmes à toute fin pratique. On consomme plus d'énergie, l'économie s'accroît, etc. Eh bien, c'est la première fois en 40 ans qu'on a à la fois une hausse de l'activité économique et une baisse de la consommation énergétique. Est-ce que ça voudrait dire qu'enfin l'humanité a compris quelque chose? C'est un chaud débat.
Quelques mots sur la haute technologie. Depuis les apports de Edward Snowden à notre vie moderne, depuis ces révélations autour de l'espionnage américain, eh bien, figurez-vous que Yahoo a décidé de mettre en place un mot de passe jetable. Alors, c'est extrêmement intéressant, ça sera bientôt sur le marché. Et ça, c'est une sécurité absolue, puisqu'on ne pourra plus le récupérer, plus le copier, plus le saisir pendant qu'on l'utilise. Enfin, le paradis.
Je termine en vous parlant de finances publiques américaines, puisque le gouvernement américain a commencé ses restrictions. Il va réatteindre le plafond de la dette au-delà de laquelle il ne peut plus emprunter, ce qui le paralyserait. C'est le psychodrame usuel qui reprend du service. Voilà, vous l'entendez, l'indicatif qui nous signale que c'est déjà la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'à présent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Rémi Hermoso pour la mise en onde. Rémi, au revoir.